Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire, mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator, mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification. Tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com/cathy.intro. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiotiake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyenkeaka, ou Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour! Beaucoup d'entre vous apprenez le français parce que vous aimez cette langue. Certes, elle est difficile à apprendre, mais pour toi, les bénéfices de pouvoir comprendre des films, lire des livres ou avoir des conversations en français l'emportent sur la pénibilité de son apprentissage. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certaines personnes, l'apprentissage est imposé, parce que c'est obligatoire à l'école, parce que c'est la langue familiale, ou parce qu'on habite dans un pays francophone où tous les services et la vie quotidienne se passent en français. Pour d'autres, il peut y avoir un attrait pour la langue, le français de France, par exemple, mais un rejet du français local, par exemple le français du Québec. C'est une remarque que j'entends souvent. « Je n'aime pas la façon de parler des gens du Québec », disent certaines personnes. Si je comprends qu'on puisse trouver les sonorités d'une langue plus ou moins agréable, malheureusement, si on étudie uniquement le français de France quand on habite au Québec, on se donne un handicap pour améliorer sa compréhension de ses voisins, collègues, etc. Alors dans ce cas, tu n'es pas obligé d'étudier seulement le français du Québec, mais n'oublie pas d'y consacrer une partie de ton temps quand même. Et suis les conseils de ce podcast pour trouver un lien affectif avec ta communauté. Finalement, je pense que ce podcast aidera aussi les personnes qui aiment la langue française, mais qui n'osent peut-être pas se lancer à fond et qui sont stressées à l'idée d'essayer de nouer des relations amicales en français avec des natifs, notamment parce qu'elles ne se sentent pas elles-mêmes quand elles parlent français et ça crée un blocage mental. Un des obstacles à l'apprentissage facile d'une langue est, je pense, le degré de compatibilité entre notre personnalité et les normes de la culture cible. Ça, j'appelle culture cible notre nouvel environnement ou l'ensemble des aspects culturels et sociétaux qui accompagnent la langue qu'on apprend. Par exemple, tout simplement, ça peut être que le fait que les Américains, en général, ont été socialisés dans une culture où on est plus excité, où on peut exprimer les émotions de façon plus ouverte et plus enthousiaste qu'en France. Donc quand on évolue dans un contexte français, francophone, on se sent peut-être un peu mal à l'aise parce qu'on ne peut pas se comporter comme on en a l'habitude. Plus on se sent à l'aise dans l'environnement culturel, plus on va avoir de la motivation pour interagir avec les autres, s'impliquer dans la société, trouver de nouvelles passions populaires dans ce pays. Et tout ça, ce sont autant d'occasions de pratiquer la langue et de nous motiver à continuer de nous perfectionner. Dans ces situations, on se concentre sur notre passion et on accepte que la langue, même imparfaite, est seulement un moyen de communication. Avec cette nouvelle langue, si on ne connecte pas vraiment avec notre environnement culturel et avec la communauté, on risque de se retrouver isolé ou de chercher la compagnie d'autres étrangers qui ne sont pas eux non plus bien intégrés. On peut avoir l'impression d'être dans un désert social. Par exemple, quand ton prof te dit « utilise tes passions pour apprendre la langue ». D'accord, mais que fais-tu si tu habites à la campagne et qu'il n'y a autour de toi aucune opportunité pour trouver des activités en lien avec ça ? Bien sûr, tu peux trouver des ressources en ligne, mais prenons le cas du sport. Si tu adores jouer au baseball, que tu n'aimes pas le foot ou le basket ou d'autres sports plus populaires en France, et que tu déménages dans une petite ville, tu ne vas pas pouvoir jouer tout seul au milieu de ton salon ou dans ton jardin. Donc ça n'offre pas les mêmes opportunités de créer des liens dans la communauté. Si ça t'arrive, la seule chose que je peux t'encourager à faire est de ne pas abandonner et de continuer de chercher une activité que tu peux pratiquer avec des personnes locales. Sois créatif, créative, essaye des choses que tu n'as jamais faites et tu découvriras peut-être quelque chose qui te plaît. Et même si l'activité en elle-même ne te plaît pas tant que ça, not that much, que tu trouves ça bien mais sans plus, ça veut dire que c'est ok, it's alright, mais pas forcément une nouvelle passion, même si tu aimes ça bien mais sans plus, tu rencontreras peut-être des personnes ou des modèles qui te donneront envie de passer plus de temps à faire cette activité. En français, bien entendu, n'oublions pas que notre objectif reste d'approfondir notre apprentissage de la langue. Si tu trouves les bonnes personnes, qu'elles sont sympas et accueillantes, tu te sentiras plus en confiance pour essayer de communiquer en français et progressivement améliorer ton niveau, et ce, quelle que soit l'activité. Je me souviens d'un client qui ne ressentait pas spécialement d'affinité avec la culture française du quotidien. Je ne parle pas de la culture au sens des arts, mais plutôt de l'ensemble des codes culturels explicites ou implicites, les relations entre les gens, la façon de communiquer, les processus de décision, ce genre de choses. Alors d'abord, il travaillait dans une entreprise française et le style de management à la française le frustrait beaucoup, ce que je peux comprendre. Sa chance, c'est qu'il a trouvé un club pour pratiquer un sport dont il était passionné. Au début, ça a été difficile à cause de la barrière de la langue. Il ne comprenait pas bien les échanges dans le groupe WhatsApp et encore moins dans les conversations rapides quand ils se voyaient tous ensemble. Je pense que la langue et les codes culturels français sont restés un mystère, un puzzle pour lui pendant longtemps. Mais après quelques mois, je crois qu'il s'est fait une raison et qu'il a commencé à accepter que c'est ainsi que les choses fonctionnent en France. Et qu'il a même commencé à apprécier certains aspects. C'est en général ce qui arrive dans un parcours d'expat. On adopte plus ou moins consciemment de nouvelles habitudes en raison de l'influence de notre nouvel environnement. Les premiers pas peuvent être difficiles, il faut s'y préparer mentalement. On doit peut-être apprendre beaucoup de vocabulaire lié à cette nouvelle activité en français, on doit améliorer notre compréhension orale des natifs dans un contexte informel et en groupe, c'est le plus difficile. Il peut y avoir aussi des problèmes de communication liés aux différences interculturelles. Donc, faire cet effort d'aller s'intégrer dans un groupe, dans une nouvelle activité, j'aime voir ça comme un investissement à moyen ou à long terme. Ces efforts qu'on fait au début et cet inconfort ne va pas durer éternellement et on va récolter le retour sur investissement, le ROI, au fur et à mesure qu'on apprend la langue et les codes culturels. Il ne faut pas oublier aussi que ça prend du temps de bâtir, de construire des relations humaines en général, mais encore plus quand on vieillit et quand on vient de cultures différentes. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être besoin d'un petit peu plus de patience et un petit peu plus d'effort. Pour en revenir à la question centrale du podcast, que faire quand on doit apprendre une langue pour laquelle on n'a pas d'affinité avec la culture cible ? Je reviens sur ce mot « affinité », tu m'as entendu le dire tout à l'heure déjà. Avoir des affinités avec quelqu'un, c'est peut-être avoir des points communs ou avoir une attirance... Pas physique, mais avoir envie de passer du temps avec cette personne et partager des choses, avoir des discussions intéressantes et bien s'entendre en général. Tout d'abord, je veux te rappeler qu'on n'est pas obligé de tout aimer dans la culture cible, tout comme on n'aime pas tout ce qui a trait à notre culture d'origine. La différence peut-être, c'est qu'on est né dans notre culture d'origine et on n'a pas le choix. on accepte le bon et le moins bon. Mais en fait, quand on y pense, si on a le choix. Si les aspects négatifs dépassent les choses qu'on aime, on peut choisir de déménager, de quitter le pays. Et on peut choisir de modifier les comportements associés à notre culture d'origine pour adopter un mode de fonctionnement qui va mieux avec nos valeurs. C'est une des raisons pour lesquelles je ne retournerai pas vivre en France dans un futur proche. Je m'y sens pas à l'aise, même s'il y a plein de choses super là-bas. Avec une culture cible, il peut y avoir plusieurs phénomènes qui se passent. L'un d'eux est l'idéalisation. On voit l'autre culture avec des lunettes roses, comme dit l'expression qui existe en anglais mais pas vraiment en français, mais on sait tous ce que ça veut dire. On a tendance à ne voir que les choses positives. Et on brosse d'un revers de main, donc on balaye, on ignore, to discard, brosser d'un revers de main toutes les informations qui ne confirment pas notre image idéale. Le phénomène inverse est de ne voir que les choses qu'on n'aime pas, qui nous énervent ou nous frustrent. Ça peut arriver par exemple si une personne a été transférée ou a suivi son ou sa partenaire dans un nouveau pays à contre-cœur. À contre-cœur, c'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose mais qu'on le fait quand même. On le fait à contre-cœur. Et puis il y a la voie du milieu, celle où tu vois les aspects positifs et négatifs et tu te forges, tu te crées une opinion nuancée. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet épisode du podcast ? Comme souvent ces derniers temps, c'est parti de mon expérience personnelle d'apprenante. J'ai en quelque sorte fait les choses à l'envers. C'est parce que j'ai appris le japonais que j'ai eu envie d'aller au Japon. La langue a précédé le voyage. J'ai commencé à apprendre parce que j'ai vu une vidéo sur Facebook et que ça avait l'air fun. J'ai continué pour le défi intellectuel que représente cette langue et parce que je n'aime pas abandonner un projet avant de l'avoir amené jusqu'à un certain point. Au fil de mon apprentissage, je ne me suis pas du tout découvert d'affinité avec la culture japonaise. Au contraire, plus je l'étudiais, plus je développais la certitude que le mode de vie japonais n'est pas compatible avec mes habitudes et ma personnalité. Le côté extrêmement normatif, encore plus qu'en France, le contrôle de soi permanent, la hiérarchie, l'organisation patriarcale de la société, les horaires de travail en entreprise qui ne favorisent pas l'équilibre entre la vie personnelle et le travail, tout ça me fait craindre d'habiter au Japon. Bien sûr, il y a des films que j'aime bien, mais je ne suis pas obsédée par ça, ni par les jeux vidéo, ni les mangas. Mais pourquoi j'y vais alors, te demandes-tu ? Est-ce que je suis folle ? Honnêtement, peut-être un peu. Mais n'oublions pas que c'est que temporaire. J'ai l'intention de revenir au Canada après cette expérience d'un an ou deux. Ma motivation, c'est qu'il y a aussi tous ces aspects du Japon que je ne peux qu'effleurer de si loin au Canada. Toutes ces choses qui me sont encore inaccessibles parce que je ne maîtrise pas assez bien la langue. Le monde des esprits et de la spiritualité, la littérature en direct sans traduction, qui me restera inaccessible pendant longtemps, soyons honnêtes, mais je pourrais peut-être progresser un peu quand même. Il y a aussi l'esthétique et la recherche de l'harmonie, la cuisine avec les ingrédients locaux, même si ça c'est plus la distance géographique que la barrière linguistique. Toutes ces choses qui m'intéressent et qui me font dire que si j'allais au Japon, si j'y vis pendant quelques temps, je découvrirais probablement le pourquoi de toutes ces choses que je n'aime pas ou comment ça fonctionne sur le terrain. Sans la distance de voir ça avec mes yeux de Canadienne, mais voir ça un peu plus avec une perspective japonaise, avec toute l'histoire et tout ce qu'il y a derrière, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui se cache derrière tous ces codes. Et parfois, si tu connectes pas avec une culture, ça peut être une question de timing. C'est ce dont je me suis rendu compte aussi. Les choses qui pourraient te passionner sont en quelque sorte cachées à cause de la barrière de la langue ou de la distance physique. Alors ne désespère pas, continue de travailler et de trouver de plus en plus de choses qui t'intéressent et te permettent de pratiquer la langue. Plus ton niveau va augmenter, plus tu auras accès à des ressources diverses et variées, et donc plus de chances de trouver des choses qui t'intéressent. Je suis convaincue qu'on peut apprendre une langue à un haut niveau sans vivre dans un pays. Je le sais parce que j'ai rencontré des gens qui l'ont fait. Mais pour moi, c'est pas assez. Je veux parcourir le pays avec mes pieds, parler avec les gens dans leur environnement et écouter leurs histoires et leurs points de vue sur la vie, le monde, leur pays. Je veux les observer en douce, cachés derrière ma tasse de café ou de thé et écouter leurs conversations, sentir les odeurs dans les rues, ressentir la chaleur, la pluie, le froid sur ma peau, partager un peu de leur quotidien, même si ce n'est que temporaire. Ces prochains mois au Japon, je les aborde avec curiosité, en essayant de laisser mes jugements derrière moi, et comme je le fais pour ce podcast, avec un intérêt pour la sociologie et l'histoire, et comment le passé influence le présent. Et bien sûr, l'évolution de mon apprentissage de la langue. Actuellement, j'estime que j'ai un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, avec beaucoup de connaissances grammaticales, mais des difficultés pour les appliquer, en particulier en expression orale. J'aimerais atteindre un bon B2 en compréhension orale et écrite, et pour l'expression orale, être capable de parler de façon assez fluide et être à l'aise avec les structures de phrases les plus courantes. Je sais que je ferai encore des erreurs grammaticales et c'est pas grave. L'avenir nous dira si mon objectif est réaliste. Bon, je pense que l'objectif est réaliste, ça c'est pas un problème. Mais bien sûr, pour la réalisation de cet objectif, ça dépend du temps que je passerai à étudier et pratiquer les concepts qui me posent le plus de problèmes. Je dois t'avouer que j'ai un peu peur des premières semaines et du mal de crâne, ça c'est un autre mot pour dire mal à la tête, qui accompagnera la fatigue liée au décalage horaire et au fait d'être entouré en permanence de signes que mon cerveau ne peut pas décoder sans faire un effort important. Je sais reconnaître un certain nombre de kanji, mais cette quantité semble être une goutte d'eau dans la mer. Je t'emmènerai dans cette aventure avec moi dans les prochains épisodes du podcast, après une pause pour préparer mon départ et mon emménagement. Quand j'y pense, c'était la même chose avec l'anglais. Même si j'ai toujours eu envie de vivre dans un pays étranger, c'était pas nécessairement un pays anglophone. Et ça a été le même processus avec l'espagnol aussi. Je t'explique. L'Irlande est le premier pays où je suis allée parce qu'on y parle anglais et que j'étais curieuse d'en apprendre plus sur ce pays à l'identité forte. Mais au départ, j'ai limité mon choix de pays où j'aimerais aller au pays qui parlait anglais pour pratiquer cette langue que j'avais apprise à l'école. Pour l'espagnol, j'aime la langue espagnole. Avec toutes ses variantes d'Europe et d'Amérique, j'aime la sonorité, j'aime bien la parler aussi, et j'en ai approfondi ma connaissance avant même d'avoir envie de faire un séjour dans un de ces pays. J'ai approfondi ma connaissance pour socialiser avec des hispanophones à Montréal, en gros. En fait, c'est parce que je parlais espagnol à un niveau intermédiaire que j'ai eu envie de profiter du fait que la conférence Neuro Language Conference se passe en Espagne. En Catalogne, plus précisément, mais c'est quand même possible de parler en castillan. Donc j'ai profité de ce fait pour faire une immersion plus longue, et ensuite j'ai planifié des séjours de plusieurs semaines, comme je t'ai expliqué dans un des épisodes précédents, comment réussir ton immersion. Donc c'est grâce à ça, à la langue, que j'ai plongé dans la culture espagnole, d'Espagne, du continent, de l'Europe donc, en attendant le jour où j'irai en Amérique latine pour découvrir une autre facette. Quand j'apprenais l'espagnol à Montréal, j'utilisais plutôt des séries mexicaines et les personnes hispanophones que je rencontre ici viennent en général du Mexique ou de pays d'Amérique du Sud. Donc j'avais pas forcément d'affinité avec l'Espagne, même si c'est la voisine de la France. Et c'est au cours de mes séjours là-bas et en lisant des romans en espagnol que j'ai développé un intérêt pour l'histoire espagnole. La langue est vraiment une porte d'entrée vers la culture. En faisant la liste des langues que j'apprends, je me rends compte qu'il y a un point commun entre toutes ces langues, le français, l'anglais, l'espagnol, le japonais. Ce sont plutôt des langues de peuples conquérants, de peuples qui ont voulu coloniser ou envahir d'autres pays. Donc ce serait intéressant un jour que j'aille faire un tour de l'autre côté. Peut-être qu'un jour j'essaye d'apprendre une langue d'une nation colonisée. Et voir ce que ça fait en termes de ressources, de richesse des ressources, de diversité, même si maintenant, avec le développement des cours en ligne, heureusement, on trouve de plus en plus de choses, même dans des langues dites minoritaires. Donc des langues qui sont peut-être parlées par beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas très populaires ou très valorisées sur le plan international. Mais pour en revenir à toi, si tu n'as pas encore trouvé la clé de cette porte pour débloquer ton français, continue de chercher. Il y a forcément quelque chose qui peut te permettre de créer un lien avec cette langue et la culture de la région où tu habites, ou d'une des nombreuses régions francophones si tu étudies à distance, sans intention de déménager ou de voyager ailleurs, pour le moment. D'ailleurs, c'est peut-être avec un projet de voyage que tu peux renforcer ta motivation pour améliorer ton français. Qui sait ? Un dernier mot sur le problème inverse, les gens dont j'ai parlé qui aiment la langue mais se sentent mal à l'aise quand ils la parlent. Peut-être que tu aimes cette langue, mais tu en souffres parce que la langue semble te rejeter. Tu as l'impression d'être incapable de l'apprendre ou de faire disparaître certaines erreurs fossilisées. Bien sûr, tu peux continuer de vouloir t'améliorer et prendre le temps qu'il faudra pour atteindre le niveau que tu souhaites. Mais en attendant que ce jour arrive, je te recommande de faire preuve de bienveillance envers toi-même et de reconnaître que certaines choses sont plus difficiles à appréhender pour ton cerveau, pour une multitude de raisons. Tu n'as rien fait de mal, c'est peut-être l'influence de ta langue maternelle ou d'autres choses, donc c'est juste une observation et une invitation à ne pas laisser ces points noirs obscurcir toutes les choses que tu fais bien. Sur cette note plus positive, je te laisse et puis on se retrouve dans quelques semaines avec la saison 5 de My Polyglot Life en français au Japon. Ciao ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.